La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de la mêlée de l'info. Voici ceux qui ont accepté de débattre ensemble cette semaine. Je salue le retour dans cette émission de Franck Bouteau, professeur de médecine, secrétaire départemental de Debout la France pour la Haute-Garonne. Je salue aussi la présence de Patrick Coste, ex-proviseur et ex-cadre de l'éducation nationale, essayiste, chroniqueur sur Radio Présence. Et je salue enfin Pierre Fournier, référent des Jeunes en Marche de Haute-Garonne, membre du parti Renaissance. Bienvenue également à vous trois et merci d'avoir accepté mon invitation. Nous commençons avec une actualité tragique qui a suscité une réaction au plus haut sommet de l'État à la suite de l'assassinat à Marseille de Mehdi Kessassi, frère d'Amine Kessassi, militant écologiste engagé dans la lutte contre le narcotrafic, et à la suite aussi de tirs sur un garçon de 12 ans grièvement blessé par balle à un point de deal à Grenoble. Emmanuel Macron a organisé mardi à l'Élysée une réunion d'urgence. Lors de celle-ci, il a demandé au gouvernement d'amplifier la lutte contre les narcotrafiquants, alors que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, a jugé que l'assassinat de Mehdi Kessassi constituait un point de bascule dans la criminalité liée au trafic de drogue. Est-ce que vous considérez, vous aussi, que cet épisode particulièrement sanglant, n'ayant semble-t-il rien à voir avec les règlements de compte entre réseaux rivaux que l'on a connus jusqu'alors, constitue un tournant dans la nécessité de lutter contre le narcotrafic et ce qu'il faut bien appeler le jusqu'au boutisme mortifère des gangs qui l'alimentent? Et qu'attendez-vous du gouvernement pour ce faire? Je pose d'abord la question à Franck Bouteau.
Merci Monsieur Dupris, merci de m'avoir invité sur cette table ronde qui se situe évidemment dans un contexte un peu dramatique et qui nous gêne finalement parce que on va forcément être obligé de commencer par des commentaires qui sont très convenus et qu'on entend partout, on regrette, on trouve ça dramatique, etc. On a déjà entendu pas mal de discours comme ça. Moi j'ai écouté Monsieur Nunes, effectivement, qui a dit que c'était un point de rupture, et il a dit quelque chose qui m'a quand même profondément choqué, c'est qu'il a dit que c'était un meurtre inédit. Dans ce sens où il considère que un meurtre, on va dire, qui n'est pas un meurtre de représailles, comme c'est effectivement le cas dans les luttes intergangs, mais un meurtre d'intimidation, il considère que c'est inédit. Et je trouve ça lamentable parce que ce genre de meurtre, ils existent finalement depuis la nuit des temps. Le fait d'agresser, voire de tuer un certain nombre de gens pour empêcher les autres de prendre telle ou telle position, c'est aussi vieux que l'espèce humaine. Et je vous rappelle que c'est comme ça que ont perduré les régimes totalitaires comme le communisme, le nazisme ou le fascisme. Et plus, si on se place dans sur un point de vue non politique, on sait très bien que les mafias ont toujours agi comme ça. Donc il n'y a absolument rien d'inédit là-dedans. C'est simplement une continuité, une aggravation, on va dire un continuum. Il y a un continuum dans l'abjection, dans l'horreur, dans la brutalité. Et il y avait depuis des années d'innombrables signaux qui laissaient entendre qu'on pourrait en arriver là. Et les services de police, de gendarmerie, les renseignements généraux ont inondé les ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, de dossiers dont il a forcément quand même dû prendre connaissance. Donc il y a quelque chose là dans la communication qui me choque profondément parce que ça sous-entend quelque chose de très grave, à savoir que je ne suis pas coupable. Ce n'est pas de ma faute, on ne s'y attendait pas, on ne pouvait pas s'y attendre. Et ça, je peux pas accepter ça. Monsieur Nunes, il sait très bien qu'en 2016, il y a deux policiers qui ont été assassinés chez eux. Et c'était quoi? C'était un crime d'intimidation. C'était un crime parce que, effectivement, les gangs voulaient dire à tous les policiers, foutez-nous la paix, sinon il va vous arriver la même chose. Donc, il faut arrêter de faire semblant de ne pas être au courant de ce qui allait se passer. Alors, je dirais que, il faut ensuite essayer d'aller plus loin pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et bon, il y a quand même, comme dans n'importe quelle maladie, je suis médecin, je veux dire, on peut pas traiter une maladie si on fait pas de diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est que, en fait, dans les années 60-70, ça n'arrivait pas, il n'y avait pas ce genre de choses, il n'y avait pas de gang. C'est pas forcément lié Oui, je suis obligé de le dire parce que je suis le plus vieux ici. Et les jeunes, ils peuvent pas avoir la mémoire de ce qui s'est passé. Mais effectivement, on n'avait pas ce genre de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu petit à petit une immigration qui s'est installée à partir des années 60-70. Et au fur et à mesure que cette immigration s'est aggravée, on a eu des gangs qui ont été importés. On a une importation de la violence, on a une violence importée. Et je sais très bien qu'on n'aura jamais la vérité parce qu'elle est interdite en France, mais on sait très bien que l'immense majorité de ces gangs sont constitués d'étrangers, soit d'étrangers purs et durs, soit de Français de papier qui sont nés de pères étrangers ou de grands-pères étrangers. Effectivement, il y a également des Français les sous-chiens, comme on les appelle, n'est-ce pas, à l'extrême gauche, qui sont recrutés, malheureusement, dans ces gangs, parce que c'est des jeunes en situation psychologique difficile et ils se laissent emporter là-dedans. Mais, basiquement, vous nous avez donné un certain nombre de liens vers des journaux qui sont tous des journaux mainstream, Figaro, L'Humanité, etc. Enfin, tous ceux qui récitent un petit peu la même chose, c'est-à-dire ce que diffuse l'agence France Presse, qui est plus ou moins d'ailleurs aux ordres du gouvernement et de Macron. Eh bien, à chaque fois, j'ai cherché le mot immigration, il ne figure nulle part. C'est pas compliqué. C'est pas la peine de le chercher. Il figure nulle part. À partir du moment où on n'est pas capable de lier cette criminalité incroyable à l'évolution progressive, on va dire, de l'immigration en France, on ne trouvera aucune solution. Ça, c'est un premier point. Ensuite, évidemment, ça ne se résout pas à ça. Je voudrais quand même être très précis là-dessus, parce que je sais qu'un certain nombre de gens vont me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que les immigrés sont des délinquants. À chaque fois que vous avez des immigrés qui arrivent, vous avez une proportion de délinquants potentiels comme il y a une proportion de djihadistes. C'est estimé à peu près 5%, d'accord ? Donc ça veut dire que si vous avez 100 immigrés, vous avez une probabilité d'avoir 5 délinquants potentiels. Quand vous en avez 600 000 comme maintenant, ça veut dire que vous avez une probabilité d'avoir 30 000 délinquants potentiels. On ne pourra rien faire si on n'arrête pas le robinet. Donc, voilà, on pourrait s'arrêter là, si vous voulez, et de dire, bon, c'est la solution d'arrêter le robinet. C'est évidemment pas la solution, mais c'est la solution pour avoir des solutions. Voilà ce que je veux dire de façon très précise. Après, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant très longtemps.
On va repartir de ce que vous avez dit, voilà. Parce que, évidemment, c'est intéressant. Et il va falloir qu'on aborde ces aspects-là, et notamment qu'on parle de la DZ Mafia. Et qu'on explique à nos auditeurs ce que c'est, parce que manifestement, elle est derrière ce crime. Pierre Fournier, vous, est-ce que vous pensez qu'on est effectivement à un point de bascule avec ce qui vient de se passer, comme l'a dit Laurent Nunez? Ou est-ce que vous pensez, comme Franck Bouteau, que bon, tout ça, malheureusement, devait arriver et que ça arrivera encore?
Déjà, bonjour Éric Drupri et bonjour messieurs. Ce que je veux vous dire, c'est que... En fait, le crime organisé a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et il y a eu une montée, oui, de ce qu'on peut appeler des mafias. On a la DZ Mafia, on a également ce qu'on appelle à Marseille le clan Yoda. Ce n'est pas une nouveauté. J'ai entendu M. Bouteau parler, dire que dans les années 70-80, on était tranquille. C'est pas vrai du tout. Hein. Dans les années 70-80, on avait la French Connection qui massacrait à Marseille. On avait les mafias corses, on a un juge qui a été assassiné, on a un préfet qui a été assassiné. Faut pas raconter de bêtises à nos auditeurs. La vérité, c'est que le crime organisé existe depuis des années. Il a évolué. Et là, ces dernières années, en fait, il a évolué en puissance. C'est une vérité. Hein. Depuis quelques années, on a affaire à des gangs de narcotrafic. En fait, on peut parler de mafia. C'est un mot un peu tabou, mais qu'on n'ose pas prononcer en France. Mais
Des aides mafia, le mot est dedans.
Oui, c'est la mafia.
Pour précision, hein, c'est mafia algérienne quand on dit des aides.
Oui, mafia algérienne. Yoda, c'était parce que c'était à côté de je sais plus quoi, où il y avait un tag de Yoda, oui. Petit personnage dans Star Wars. La réalité, c'est que aujourd'hui, ça n'a pas forcément de rapport avec l'immigration. En fait, les personnes qui sont en bas de l'échelle sont peut-être souvent des personnes issues de l'immigration, parce que en fait, c'est des personnes en situation de précarité extrême qui vivent dans des ghettos et qui se font et qui choisissent facilement en fait le crime, enfin d'être des chouves, d'être des petits trafiquants pour survivre. Les têtes de réseau, Souvent, on n'habite même pas en France. Il y en a qui sont à Dubaï, il y en a qui sont dans des pays étrangers. Donc, en fait, l'immigration n'a à peu près rien à voir avec...
Il y en a même qui sont en prison actuellement.
Voilà, il y en a même qui sont en prison. Monsieur Nunez, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez a annoncé pas mal de mesures. Il y en a déjà quelques-unes qui sont déjà mises en œuvre, notamment par le ministre de la Justice, Monsieur Darmanin. Il y a notamment eu la création de prisons de très haute sécurité. Sur le modèle en fait des prisons en Italie, des prisons anti-mafia en Italie. Le ministre est carrément allé en Italie pour voir comment ça fonctionnait. Donc on passe en fait à des systèmes où les prisons qui pouvaient être des passoires ou pouvaient parfois, notamment en Italie, c'est ce qui s'est passé, hein. En Italie, on avait des têtes de réseau qui étaient en prison, qui commanditaient les assassinats. On a eu la même chose en France. On a eu encore récemment un individu, je n'ai plus le nom en tête, là, qui a réussi à s'échapper de prison, oui. Qui a réussi en assassinant deux fonctionnaires
de police.
Ceux qui sont
intervenus ont tué effectivement de fonctionnaires de police pour le libérer.
Aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été mises en place, notamment en fait, là, il y a une loi qui arrive à l'Assemblée nationale, avec notamment la création d'un parquet anticriminalité de narcotrafic. On pourrait appeler ça un parquet anti-mafia. Hein, c'est un mot qu'on ne souhaite pas utiliser généralement, mais je pense que c'est utile d'appeler un chat un chat. Il va y avoir un renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment. L'idée derrière, c'est de permettre aux préfets, notamment, de fermer temporairement et rapidement des commerces qui sont suspects, dont on suspecte qu'ils sont des plaques de blanchiment d'argent. On va avoir l'élargissement des capacités de collecte, notamment pour trafic fin. On va avoir l'extension, en fait, je sais pas si vous savez, là, quand vous allez dans un service de location de voiture, par exemple, ou de location de bateau, ben, on va avoir les professionnels maintenant qui vont être obligés de signaler à TrackFin quand il y a des, quand on a des locations suspectes, on peut dire. Voilà. C'est tout un tas de petites lois qui vont être ajoutées dans ce grand projet de loi. Et, en fait, ce qui est important de dire, c'est que cet assassinat est absolument scandaleux. C'est une plaie dans notre pays. Il nous rappelle en fait le gros problème du narcotrafic que nous avons. Et si je peux dire un dernier mot, c'est... je pense que cette grande loi de narcotrafic va être importante. On peut parler de légalisation, non-légalisation, je pense que c'est... vous en parlerez peut-être après, mais...
C'est une des solutions que certains préconisent depuis longtemps. J'ai vu qu'Éric Piolle, le maire de Grenoble, demande lui carrément un référendum sur la dépénalisation du cannabis.
Mais moi, je vais vous dire là-dessus, aux Jeunes en Marche, on a toujours été historiquement favorable à la dépénalisation de l'usage du cannabis, parce que on a remarqué, on a fait des études dessus, on a même rédigé tout un livret. On comprend en fait que la lutte contre le trafic de cannabis est inefficace et coûte beaucoup d'argent à la collectivité. Et quand on regarde les pays où ça a été légalisé ou dépénalisé, on remarque que la criminalité baisse et que même les addictions sont en baisse.
Alors, on va passer la parole à Patrick Cosse qui va passer en troisième et pouvoir peut-être synthétiser ce qui a pu être dit. Non, surtout, bon, je reviens à ma question. Est-ce que vous pensez aussi qu'on est arrivé à un point de bascule avec cet assassinat? Je rappelle qu'il y a un enfant aussi, hein, qui, alors lui, n'est pas mort, mais qui a été grièvement blessé. Là, ça prend quand même une tournure un peu particulière.
Donc, et inquiétante. À mon tour, bonsoir à tous. Aux auditeurs et aux invités et à Eric. Alors, bon, pour répondre un peu directement à la question, est-ce qu'on a un point de bascule, il y a sans aucun doute une intensité de la gravité hein, qui est en train de prendre et qui est évidemment hein, une menace sur un certain nombre de citoyens qui n'ont rien à voir. Mais aussi une très grande souffrance dans le domaine de la santé qui est liée à ce trafic. Ça relève quasiment d'une hécatombe parce qu'il y a des morts, mais il y a aussi des problèmes de santé mentale qui sont liés à cela. C'est une parenthèse, hein, mais il se trouve, hein, c'est vraiment anecdotique, mais il y a 20 et quelques années, 20 ans à peu près, j'étais le référent académique sur les consommations en risque au niveau du rectorat de Toulouse. Donc c'est un sujet dont je me suis quelque peu occupé dans les dimensions scolaires. Hein. Et c'était déjà à l'époque, il y a 20 ans, du point de vue de la situation scolaire, un problème qui nous préoccupait beaucoup. Mais ce que je voudrais dire, il a été question de diagnostic.
Bien sûr.
Tout à l'heure. Et je crois que c'est, en termes de synthèse hein, aussi, toujours un point de départ de faire un diagnostic. J'ai pas le même que celui de Monsieur Bouteau, qui fait une sorte de nouage hein, entre la question de l'immigration, de la sécurité et du narcotrafic. Je crois que, inversement, la question du narcotrafic déplace dans d'autres échelles la question de la sécurité. Le problème du narcotrafic, il n'est pas un problème franco-français. Il n'est pas un problème de l'immigration en France. Juste quelques indications. Hein. Ça représente au niveau européen un trafic de 139 milliards d'euros. Hein. On n'est pas dans un rapport de proportion avec les questions de l'immigration en France. Chacun des pays de l'Europe, peut-être pas tous systématiquement, mais j'en ai vu un certain nombre, font des saisies de 40 et quelques tonnes de cocaïne par pays. Bon, et donc les politiques internes ne sont pas les mêmes. Donc, et ainsi de suite. Hein. D'autre part, en termes de problématiques, sur le cannabis, il y a 23 millions de consommateurs en France de cannabis. Il y a pratiquement 1 million de consommateurs de cocaïne.
Oui, c'est 5 millions de consommateurs réguliers de cannabis, bien réguliers, et voilà, 1 million de consommateurs de cocaïne tout de même.
Et 23 millions qui ont expérimenté, qui sont des occasionnels. Ce qui veut dire que c'est un problème qui a gangréné de façon systémique le système et qui a des relais dans toute une économie parallèle. Dans une dimension internationale. C'est-à-dire que le diagnostic, c'est presque une problématique intercontinentale entre des pays pauvres, des pays riches, avec toute une économie illégale qui se joue par rapport à ça. Bon, et donc, dans le diagnostic, s'il y a juste aussi une digression, mais si on prend les États-Unis à l'heure actuelle, il y a une baisse de la courbe de la longévité de vie qui est liée à des problèmes d'addiction et d'opiacés. Mmh. Hein, c'est pour dire à quel point ce phénomène est un phénomène d'échelle mondiale, bien entendu. Alors, s'il y a quelque chose qui est en train de s'accentuer, je crois qu'il faut établir un parallèle avec un fonctionnement qui est un fonctionnement de l'économie monde, où il y a une sorte de fluidité des circulations par rapport à tout ce qui peut être fait sur le plan commercial, qui se fait aussi dans cette économie parallèle des addictions. Hein. On s'est toujours drogué, mais sauf quand il y a un système économique de grande échelle qui pousse aux consommations, corollairement, j'aurais envie de dire, l'addiction s'y retrouve. Bon. Alors, ça c'est le diagnostic, le paysage de la problématique. Ensuite, ça a été dit par Monsieur Fournier, il y a un certain nombre de politiques qui sont à conduire dans chacun des pays, et puis dans des accords aussi oui. Internationaux. Il y a des accords avec le Maroc, il y a de suivi des consommations, il y a des accords avec la Belgique, avec les Pays-Bas, qui sont particulièrement concernés par ces questions de consommation. Donc il y a évidemment toute une organisation à mettre en place. Alors, par rapport à ça, là, j'établis aussi une autre comparaison, hein, pour se donner une mesure. On a connu les problèmes du terrorisme. C'est un autre sujet. Mais il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, depuis Hollande, d'ailleurs. Oui. C'est pas une question de groupes politiques, là, qui ont été conduits, qui fait qu'il y a eu véritablement une lutte qui a été menée contre le terrorisme, qui, du point de vue du renseignement, a donné de formidables résultats. Et je reconnais aussi que dans les politiques qui sont menées, y compris par Darmanin, et y compris par Retailleau, sur ces questions-là, il y a eu des avancées qui font qu'à Marseille, ils frappent très très fort sur le narcotrafic. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'oppositions qui sont conduites. Bon, ceci dit, c'est effectivement, on peut appeler ça une guerre, compte tenu de l'augmentation du phénomène. Mes réflexions, moi, elles seraient presque de l'ordre de la dimension professionnelle. Il faut avoir les réponses professionnelles par rapport à cette menace-là. Et je considère que les pouvoirs publics, dans une certaine progressivité, me semblent avancer quand même dans ce domaine-là.
Alors, bon, sur les solutions, les mesures à prendre, donc j'ai évoqué, et ça revient régulièrement, la dépénalisation, la légalisation, appelons ça comme on veut, du cannabis. Éric Piolle demande un référendum. Est-ce que pour vous, c'est une solution envisagée, une piste à creuser? Depuis le temps qu'on en parle, je ne sais pas. Alors, il y a Emmanuel Macron aussi, lui. Souvent, il fait des déclarations auxquelles on ne s'attend pas forcément, qui a déclaré que acheter de la cocaïne, c'est être complice. Et il s'en est pris aux bourgeois des beaux quartiers qui financeraient les narcotrafiquants en consommant des produits stupéfiants, quels qu'ils soient. Alors, est-ce qu'il faut aussi s'en prendre pour de bon aux consommateurs? Franck Bouteau.
Alors ça, c'est une question récurrente, évidemment, parce que dans un problème de corruption, vous avez toujours un corrompu et un corrupteur, savoir à qui on s'adresse en premier. Ce que je dirais, c'est que il n'y a pas de société sans drogue. Ça n'existe pas.
Ni sans vol, ni sans crime.
De toute façon, même dans les sociétés primitives, ils ont toujours eu le moyen de faire un petit quelque chose en faisant fermenter une plante ou en utilisant des champignons. Donc nous, d'ailleurs, on a notre drogue officielle en France, qui est l'alcool. Et on a résolu à peu près le problème, je dirais, pour l'instant. Il y a toujours un problème avec les accidents de la route, il y a un problème avec l'alcoolisme chronique qui donne un certain nombre de maladies, vous en avez parlé. Et je signale d'ailleurs qu'en France, un alcoolique au dernier degré qui a une cirrhose hépatique, eh bien, il bénéficie d'une greffe de foie gratuite, on va dire, payée par la collectivité, ce qui prouve qu'on est quand même très permissif vis-à-vis de l'alcool. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit à propos de la par Monsieur Fournier à propos de la du cannabis. C'est-à-dire que on sait très bien que chez les jeunes, notamment, il y a plus de 50% des jeunes qui ont au moins fumé une fois. Et pour avoir été aux États-Unis il y a quelques années, je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'était 80% des étudiants qui utilisaient ça. C'est pas pour ça que la société américaine s'est dissoute. Donc c'est absolument impossible d'essayer de régler ce problème. Donc il faut régler le problème du cannabis certainement de la façon analogue à celle qu'on a réglé le problème de l'alcool, en faisant de l'information, en expliquant aux gens que quand on fume un pétard, comme on dit, eh bien ça détruit des neurones. Alors quand on n'en fume pas beaucoup, ça va, mais quand on commence à être hyper addictif, ça provoque des lésions cérébrales importantes. Le patient, j'appelle ça comme ça, ne s'en aperçoit pas, c'est son entourage qui s'en aperçoit. Donc ça, je pense que au niveau de l'éducation nationale, pour cette drogue-là, et bien sûr aussi pour les autres, les comprimés, les drogues dures, etc., il faut absolument faire une information qui soit beaucoup plus complète pour que chaque jeune comprenne qu'il va se détruire d'une manière ou d'une autre, et à partir de là, il va détruire son entourage, ses amis, sa famille, etc. Ça, c'est un premier point. Et avant la répression, il y a toujours un problème d'éducation. Et moi, je pense qu'on sera obligé d'en venir là. D'ailleurs, on a parlé de la Hollande. Effectivement, on peut aller, n'importe qui peut aller à Amsterdam et ramener du cannabis. Je veux dire, les lois ne sont pas les mêmes dans tous les pays de l'Union européenne. Déjà, ça commence mal. Donc forcément, on peut pas gérer ça. Par contre, il faut être complètement intransigeant vis-à-vis des drogues dures. Et là, moi, je suis assez stupéfait, effectivement, de la réflexion de Monsieur Macron, parce qu'on sait qu'il y a des députés qui se sont vantés presque d'avoir d'utiliser des drogues. On a des gens dans l'entourage de Monsieur Macron qui ont dit que, bah, de toute façon, quand ils faisaient des réunions à 3h du matin, ils étaient tous obligés de prendre de la cocaïne, etc., etc. Donc, oui, vous savez, si c'est, ça s'est dit.
C'est sans doute ça.
Non, mais de toute façon, bon.
Oui, effectivement, on entend dire que dans le milieu politique, ça circule, comme ça circule dans le milieu du showbiz.
Bon, le showbiz, ça, etc.
C'est pas un scoop.
Alors, il faut quand même être sérieux. Je veux dire, on peut avoir effectivement une prise, comment dire, occasionnelle. Mais bon, de là à mettre tout le monde en prison sous prétexte que vous avez pris un peu de cocaïne, c'est compliqué. Il y a tout un appareil législatif qui est très particulier, parce que les peines théoriques sont énormes. C'est-à-dire que l'utilisation même d'une drogue douce, ça peut vous conduire à un an de prison, 4 000 euros d'amende, etc. Donc il y a quelque chose à faire là qui au niveau, moi je pense qu'il faut surtout le faire au niveau de la jeunesse concernant les drogues. Moi je suis quand même un peu désespéré de voir que les fêtes, les teufs comme on dit des jeunes actuellement se passent énormément avec des comprimés, et je pense que là il faut après on va dire l'information, l'éducation, il faut quand même être plus répressif. Et là, c'est pas compliqué de faire une petite descente dans une fête. On n'a pas besoin d'aller faire les poches. Il suffit de faire une prise de sang pour savoir qui a consommé de la drogue et qui n'en a pas consommé. Et ça sera très simplement mis sur un fichier. La première fois, bah, très bien, on dit rien. La deuxième, on commence à envisager des mesures. Et la troisième, eh bien, il y a des mesures plus dures. On peut très bien envisager de supprimer les APL, ou on peut très bien aussi supprimer la carte d'étudiant, hein, pourquoi pas. Je veux dire, après tout, c'est pas obligatoire de donner des diplômes à des gens qui sont des drogués. Je vois pas comment on pourra obtenir une société correcte dans ce contexte. Donc voilà, il y a deux moyens de lutter, qui sont les méthodes douces qu'on n'utilise pas assez, mais aussi les méthodes dures qui, à mon avis, on n'utilise pas non plus assez.
Pierre Fournier, est-ce que vous pensez, comme le président de la République, que vous soutenez, qu'il va falloir s'en prendre à un moment donné quand même aux consommateurs ?
On s'en prend déjà aux consommateurs.
Ah, mais il veut aller plus loin, sans
oui,
doute.
Sinon,
il n'aurait pas dit ça.
En fait, il faut prendre un peu de recul. Comment dire. Depuis les années 2010, est apparu le trafic en ligne, on va dire. Il y a eu une époque où ça a un peu marqué ça. C'était la création du site Silk Road, pour ceux qui connaissent, qui était un site, une sorte de Amazon en ligne sur le Darknet, qui permettait de commander de la drogue en ligne. Ça a été un peu le point de bascule. Et aujourd'hui, en fait, si vous suivez un peu les reportages, vous savez que maintenant, en fait, depuis Snapchat, depuis Telegram, depuis même WhatsApp, hein, on peut commander sa petite dose et se faire livrer à domicile.
Oui, à domicile, oui.
C'est plus efficace en Uber ou qu'un Deliveroo. Donc en fait, on a affaire à une nouvelle forme de trafic. Hein. Les jeunes, les bourgeois, comme on dit, ne vont pas en bas des cités, ils ne vont pas au Mirail, hein, si on est à Toulouse. Ils se font livrer directement, en fait, par ces applications-là. Donc il y a une réalité, en fait, déjà d'un changement de comportement sur comment on le commande, comment on le récupère ça. Et c'est vrai qu'il y a une réalité, en fait, de la consommation. Ce n'est pas que les jeunes, que les vieux, que les grands drogués qui consomment. On a aussi, en fait, de la consommation, de petites soirées, de petites teufs, comme vous dites. Et c'est important à souligner. J'aimerais rappeler quand même une chose. Là, je suis pas d'accord avec Monsieur Roubaud.
Monsieur Bouteau.
Bouteau, pardon. Excusez-moi, j'ai mal marqué. Bouteau. Les consommateurs, enfin même les consommateurs, ceux qui sont addicts sont malades. C'est des maladies, hein, l'addiction. Hein. Je connais des gens qui ont été addicts à certaines drogues. On ne sort pas comme ça. Donc je trouve ça un peu facile de parler de suppression d'APL, suppression de diplôme ou interdiction de logement pour des personnes qui sont malades. Surtout venant d'un médecin, je suis un peu choqué par ces quelques phrases. Moi, j'aimerais revenir.
Je peux quand même intervenir. Là, c'est pour la protection de la population. C'est-à-dire, c'est pour ne pas donner des responsabilités à des gens qui sont drogués.
Ça n'a rien à voir avec des responsabilités. Ah bah toucher si. Des appels ou des aides pour vivre,
non,
en fait.
Non, je parle des diplômes. C'est-à-dire, vous n'allez pas donner un diplôme, je sais pas moi, de pilote de ligne ou même de chirurgien à quelqu'un qui est drogué.
Mais bien sûr, mais ça n'a absolument rien à voir là. Vous mélangez les choux et les carottes.
C'est exactement le problème.
Vous parliez d'APL juste avant.
Les APL, c'est une façon, c'est de faire une, plutôt que de donner une amende qui va être payée, ou pas payée, eh bien, on dit, bah voilà, vous allez avoir un petit problème pour aller voir vos parents et aller voir ce qu'ils en pensent. Voilà, bon, c'est rien de bien méchant. Hein.
Moi, je vous dis un truc, c'est un des points sur lequel je diverge un peu du président de la République et puis même de mon parti de Renaissance. Et je rejoins un peu la ligne de ce qu'on a toujours eu chez Jeunes en Marche, historiquement et Jeunes avec Macron. On a toujours été favorable à la légalisation du cannabis.
Ouais, vous avez déjà
dit ce que je vous ai expliqué. Hein. Nous, on pense qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens dans les politiques de prévention. Et après, ça irait avec des hausses des prix. En fait, si vous regardez aujourd'hui dans les drogues légales, on a l'alcool et le tabac. Si vous regardez depuis quelques années, quand on est ancien, on a un peu l'impression que les jeunes se droguent, les jeunes boivent de l'alcool, les jeunes fument. La réalité est totalement inverse. Les jeunes boivent beaucoup moins que leurs aînés. Moi, j'ai 28 ans, les jeunes de 18 ans aujourd'hui boivent beaucoup moins que moi à l'époque, quand on était en soirée. Ils fument beaucoup moins. Il y a quasiment... j'ai des tonnes d'amis qui fument pas du tout de tabac, alors qu'avant, vous étiez... avant 2007, même, vous aviez les restaurantiers qui puaient la clope de partout. Voilà, on a des... En fait, ce qui fonctionne, c'est des politiques de prévention, de vraies politiques de prévention, comme on a avec le tabac, qu'on a avec l'alcool, on a le mois sans tabac, on a le dry January.
Là, vous rejoignez Franck Bouteau sur ça.
Voilà, non, mais là-dessus, je suis totalement d'accord. En fait, ce dont on a besoin, surtout, si on veut baisser la consommation, que ce soit des drogues, ou même du tabac ou de l'alcool en général, c'est les politiques de prévention. Comment on a réussi à baisser le tabac ? La prévention de la hausse des prix des cigarettes. Et trois, en fait, il y a eu les puffs et les cigarettes électroniques qui sont arrivées et qui ont permis de réduire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut réduire ces consommations, notamment pour le cannabis, je pense que ça passe par là. On n'arrivera jamais à endiguer le trafic de cannabis si on ne passe pas par cette étape de légalisation. En ce qui concerne les autres drogues, donc il y a la cocaïne et après il y a les drogues de synthèse. Et également, je dirais pas de manière pure marginale parce que ça tend à augmenter, mais les morphiniques, notamment héroïne, etc. Sur ces cas-là, on va dire sur les morphiniques, ce sont vraiment des malades. On prend pas de l'héroïne pour le kiff en soirée. C'est des personnes totalement malades qui sont addictes et qui risquent leur vie. Pour les autres drogues, on va dire de synthèse, la cocaïne, la petite trace que certains se prennent en soirée. Le président, je pense, a raison là-dessus. Je pense qu'on doit beaucoup plus cibler ces fameux consommateurs qui, eux, ont les moyens de se prendre des amendes. Et je pense qu'ils méritent de se prendre de grosses amendes là-dessus. Et je pense qu'on a une nécessité également de faire de la prévention de leur côté. Mais également, en fait, pourquoi pas faire des descentes. Moi, je serais favorable, par exemple, à faire des contrôles en sortie de boîte de nuit. Des contrôles en sortie de festival.
Avant de reprendre la voiture, par exemple.
Exactement. C'est ce qui se passe pour l'alcool. Hein. Vous faites le nouvel an, vous êtes sûr de tomber sur la route sur des gendarmes ou des policiers.
Oui.
Ça serait exactement la même chose.
Patrick Cosse, pour terminer sur ce premier sujet.
Écoutez, on peut profiter quand même de ma présence ayant travaillé sur ce dossier de prévention dans l'éducation pour donner quelques informations sur la manière dont ça se passe. D'abord, en termes de prévention, c'est de l'info. Hein. Il ne s'agit pas simplement de dire le cannabis, ça fait mal, ou la drogue dure, ça fait mal, faire intervenir les policiers pour le rappel à la loi. Un travail de prévention dans le domaine d'éducation, c'est toute une construction qui est à développer pour inscrire véritablement la prévention dans les esprits. Par exemple, hein, pour vous donner une illustration, en ce qui concerne prévention, ça peut vous paraître assez incroyable, mais il faut commencer très très tôt, quasiment au primaire, si vous voulez, pour apprendre aux enfants une capacité à dire non par rapport à une offre, par rapport à une tentation. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des sortes d'affichages de la toxicité du produit, mais c'est comme en quelque sorte des prérequis qui se construisent dans la prévention par rapport à ce qui peut venir ensuite. Ensuite, en ce qui concerne la prévention, c'est tout un maillage de territoire. Parce qu'en fait, il y a des associations qui sont concernées, la préfecture est concernée par rapport à ça, Et donc, il est prévu, par rapport aux préventions, les politiques de prévention, un responsable départemental, hein, souvent c'est le directeur de l'ARS qui s'en occupe, mais ça peut être également en préfecture, qui est un référent, qui construit des politiques au niveau départemental en ce qui concerne les préventions. Bon, voilà pour quelques mots. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que dans les établissements scolaires, en termes de consommation, il y a également des sanctions qui sont prononcées et des contrôles. J'ai des souvenirs, hein, c'est des illustrations. Un internat, qui était un internat long, ouvert le week-end, c'était littéralement vérolé par des consommations de cannabis. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est de la responsabilité d'une direction, par exemple. On y a fait passer la police avec les chiens, dans tous les placards des internes de l'internat. On a eu quelques surprises, hein, c'est-à-dire par exemple des pipes de physique, du labo de physique qui avaient été empruntées pour faire des...
Et détournées de leur usage.
Détournées de leur usage, enfin des situations assez psychédéliques par rapport au contrôle. Donc il y a un travail qui est fait. Alors ceci dit, je vais terminer là-dessus par rapport à la dimension de la prévention, ce qui est en train de se passer, ça s'apprend, hein, y compris du côté des enseignants, parce qu'il faut les former aux signes faibles pour qu'ils se rendent compte d'un certain nombre de problématiques, ce qu'ils peuvent avoir sous les yeux. Enfin, c'est tout un travail. Hein. Mais ce que je peux vous dire par ailleurs, c'est que dans l'école, on est dans une situation en ce moment d'empilage de tâches à fournir, que ce soit du côté du harcèlement, du développement durable, etc., que tenir des dossiers comme cela, ça devient extrêmement difficile parce qu'on est envahi par un certain nombre de missions à tenir dans l'école. Voilà. Mais de la prévention, ceci dit. Alors, sur les chiffres, hein, au niveau des baisses de consommation, il y a un chiffre. Dans les années, il y a 15-20 ans, on était à peu près sur le cannabis, sur les jeunes, à 7, et quelques pourcents de consommation. On est autour de 3,8 là.
C'est divisé par 2. Bon, on va terminer là-dessus, hein, sur ce sujet. Laurent Nunez et Gérald Darmanin étaient en déplacement à Marseille aujourd'hui. Emmanuel Macron va se rendre lui aussi prochainement dans cette ville qui semble malheureusement de plus en plus gangrénée par le narcotrafic et surtout par ses conséquences délétères. Il y a un plan, des mesures qui devraient être annoncées. Affaire à suivre. En attendant, pause pour nous, pause pour tous les quatre. On se retrouve à l'antenne dans une vingtaine de secondes. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct, toujours avec mes trois invités, Franck Bouteau, Patrick Coste et Pierre Fournier, pour retrouver Emmanuel Macron qui a accueilli lundi Volodymyr Zelensky à Villacoublay, où les deux hommes ont signé un important accord d'armement visant à renforcer l'aviation de combat et la défense aérienne de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Il s'agit en fait à ce stade, hein, d'une lettre d'intention, il n'y a pas d'accord signé, il n'y a pas de contrat. Cette lettre d'intention, on ne connaît pas le détail du contenu, mais selon l'Elysée, l'accord se projette sur un horizon d'une dizaine d'années et il prévoit de possibles contrats à venir pour l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense français, des équipements neufs, qui intégreraient une centaine d'avions Rafale avec leurs armements associés, ainsi que d'autres types d'armements. Est-ce que vous avez aussi été surpris, comme bon nombre d'observateurs, en apprenant cette nouvelle, notamment s'agissant de l'ampleur du nombre de Rafales à livrer prévues dans cet accord? Patrick Coste.
C'est une question qui me met dans un certain désarroi, parce que c'est une intention par rapport à des enjeux formidables, évidemment, d'armement. Et j'ai l'impression que le chaînage qui permet de donner une consistance à l'intention n'est pas du tout en place. C'est comme s'il y avait une sorte d'énorme trou dans la raquette par rapport au montage de l'opération, ce qui me met dans un état d'expectative un peu par rapport à la situation. Alors, Ensuite, au-delà de ce doute que je peux avoir par rapport à ce moment-là, il n'empêche que il y a une guerre en Europe, qu'il y a un ciel qui est occupé sur le plan des armements, au moins sur l'Ukraine, par la Russie. Et donc, cette intention donne une vision par rapport à ce qu'il faut faire. Et peut-être même que c'est une intention qui aurait mérité d'être prononcée avant. Voilà. Elle a cette valeur au moins symbolique de donner une sorte de vecteur par rapport à un projet à long terme. Alors ensuite, c'est loin de pouvoir se régler du point de vue simplement de la posture symbolique, hein, pour faire un aviateur qui est capable de conduire un Rafale, on est susceptible de mettre 10 ans pour le former.
C'est un avion qui est difficile à maîtriser.
On fait état de centaines de milliards en termes de budget. Alors il y a les avoirs russes, il y a un certain nombre de réserves du côté européen par rapport à des objectifs de défense. Mais on a l'impression quand même qu'on est un peu sur le plan financier, dans des sortes de définitions quelque peu virtuelles par rapport à l'intention. Et puis il y a la production industrielle des Rafales. Ça, c'est de l'info. Hein. Je crois que tout le monde maintenant est un peu au courant. Dassault est en capacité de produire 3 Rafales par mois.
3, 4 au mieux par
mois.
Donc
on est susceptible, en appuyant sur l'accélérateur, d'arriver à 5. Il y a des commandes qui sont en cours.
Mais il y en a déjà qui sont...
Je crois qu'il y en a 130 qui sont commandées déjà.
Pour les Grecs, pour les Indiens.
Comment va-t-on...
Et pour notre armée aussi.
Arriver à mettre en musique... à la fois ces commandes, ces contrats qui doivent avoir des échéances, hein, qui ont été définies contractuellement, et puis c'est sans Rafale. Il y a là quelque chose qui est un peu trouble dans l'évolution. Au demeurant, je reconnais que de toute façon, il fallait marquer le pas par rapport à une visée sur le plan militaire. Donc maintenant, à voir.
Pierre Fournier, vous, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette information là, à laquelle on ne s'attendait pas forcément tout de même?
Moi, je veux dire, je suis rassuré. C'est en fait en cohérence avec ce que fait le président de la République depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce chiffre, il peut paraître impressionnant, mais en fait, c'est quand même à la hauteur de l'enjeu. C'est la sécurité de l'Europe qui est en jeu. Pour faire attention aux raccourcis, on a l'impression que là, on va commander 100 Rafales qui vont être livrés clé en main dans l'année.
C'est bien noté, non. Sur 10 ans.
Voilà. La réalité,
mais
c'est
ça, on va y revenir justement sur cette échéance.
La réalité, c'est que l'idée, c'est de faire une planification sur une décennie de livraison. Comme vous avez dit, on est à peu près là à 3-4 Rafales par mois en capacité de production. Quand on est dans l'industrie de l'armement, qu'on arrive à vendre à l'étranger ce genre de matériel, donc ce genre d'avion, ça nous permet également, nous Français, enfin pour le Dassault, d'augmenter ses capacités de production, donc d'ouvrir des nouvelles lignes, et également d'accroître en fait cette capacité. Donc on a eu l'Inde, on a la Croatie, on a l'Égypte, on a le Qatar, on a désormais la Grèce également qui ont fait des commandes. Avec tout ça, en fait, déjà, d'un point de vue industriel et même pour la France, en fait, ça nous permet, nous, d'accroître notre capacité de production. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est d'un point de vue contre la Russie. La guerre a changé de temporalité. Poutine espérait faire une sorte de blitzkrieg en Ukraine, de faire une opération spéciale rapidement. Bon, il s'embourbe depuis quelques années maintenant, hein, depuis le début de la guerre, et il joue le temps long, et il espère désormais que ça se joue sur la fatigue, que le moral des Ukrainiens tombe, et du coup que le moral des troupes baisse et qu'ils puissent gagner comme ça, parce qu'il a le réservoir d'hommes, hein, il fait même appel à la Corée du Nord pour envoyer en ligne de front. En faisant en fait cette énorme commande, donc cette lettre d'intention qui va aboutir du coup à la commande de Rafale, on envoie un message clair à Poutine. En fait, on laissera pas tomber l'Ukraine, et l'Ukraine va devenir sera un pays avec une armée forte, avec du matériel de pointe, parce qu'on parle de Rafale, mais on parle pas que de ça, on parle de canon César,
oui,
on parle
y a,
de
y a
drones,
d'autres armements,
on parle,
de drones,
on parle
bien sûr.
D'un paquet de,
d'armements associés.
Exactement.
Comment on paye quand même, excusez-moi, hein, parce que comment on est payé plutôt?
On est payé. Bon, les Ukrainiens, ils ont de l'argent, ils n'ont pas un déficit de aussi énorme que le nôtre, on va dire.
Ouais, mais ils sont en effort de guerre depuis un moment.
Voilà, ils sont en fait sont dans une économie de guerre et comment dire, ces rafales sont payées. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. C'est pas un petit pays, l'Ukraine, hein. C'est un pays un très gros producteur de blé, un très gros producteur de métaux rares. C'est pas un petit pays du Caucase qui sera incapable.
Vous croyez qu'ils ont le moyen de payer une centaine de rafales?
Je pense, oui. Mais déjà, sur une décennie, en fait, on parle d'une décennie au moins, voire peut-être un peu plus, hein, peut-être qu'ils en commanderont d'autres. Mais en fait, ce qu'il faut noter, c'est que cette industrie française, elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez, les Mirage 2000, là, qui sont en Ukraine, ils font un travail formidable. Ils arrivent à abattre des drones russes en vol. Ils démoralisent en quelque sorte les troupes russes, alors que c'est des Mirage 2000. Les Mirage 2000, ils sont un peu vieux, ils datent des années 70, 80, je sais plus de quand date exactement le début de la production.
Il y a eu plusieurs versions après.
Il y a eu plusieurs versions, mais voilà. Nous, la France, l'armée de l'air est passée ou est en train de passer au tout Rafale actuellement, et nos Mirage 2000, bon, soit ils sont mis à la case, soit en fait, voilà, c'est l'Ukraine qui les a récupérés. Donc avec ces commandes de Rafale, en fait, on dit juste aux Russes, mais en fait, c'est pas fini, l'Ukraine, elle va pas tomber. Et derrière, en fait, nous, on passe en, enfin, l'Ukraine passe en économie de guerre, et en fait, on pousse l'Europe aussi à passer en économie de guerre. Je vous récite le dicton, hein, mais c'est César qui disait "Civis pacem, par bellum", qui veut la paix prépare la guerre.
Ça, depuis 3 ans, on l'entend. Souvent.
Exactement.
Alors, Franck Bouteau, je suis pas certain que vous soyez tout à fait d'accord avec
les deux premières interventions.
Pas
vraiment. Moi je vois là une énorme opération de communication, comme il en a le secret. Notre président, il adore faire ça. Parce que c'est complètement grotesque. Enfin, je veux dire, bon, on a quelqu'un qui vient là, qui serre les mains partout, et puis alors on se fait prendre en photo devant un drapeau ukrainien. On dit voilà, ils ont commandé 100 rafales, c'est formidable. Alors moi, je voudrais quand même lui dire un petit mot sur la dépêche, parce que la dépêche sur la une, il y a 2-3 jours là. Donc on voit la photo d'un rafale magnifique. Et puis le texte, c'est commande géante. Ah, commande géante de Rafale. Alors, moi, je voudrais dire quand même au fact-checker, comment il s'appelle, du Monde, là, il serait peut-être temps d'aller un peu tirer les oreilles de la dépêche là. Si c'est pas une fake news, là, qu'est-ce que c'est une fake news? C'est pas une commande, c'est juste une petite. Une lettre d'intention, qui sur le plan juridique n'a strictement aucune valeur. Strictement aucune valeur. D'ailleurs, je signale au passage que Zelensky, bon, il a fait un petit peu le tour de l'Europe. Il avait déjà obtenu, je crois, d'après ce que j'ai lu, 95 F-16 américains. Alors les F-16, c'est des vieux avions, donc de ce côté-là, il n'a pas dû faire une très bonne affaire. Et puisque maintenant, le modèle américain, c'est le F-35. Bon, passons. Et puis, il a quand même obtenu, enfin, il a été commandé, soi-disant, pareil, hein, 150 avions Gripen suédois, qui sont des avions très performants, puisque récemment, malheureusement, ils ont été capables de détruire deux rafales indiens dans un petit conflit, n'est-ce pas, entre le Pakistan et l'Inde. Bref. Mais évidemment qu'il n'aura jamais tout ça. Il n'aura jamais. Et on vous dit, c'est dans 10 ans. C'est ça le problème.
Alors j'allais effectivement poser la question, mais je vous laisse
évoquer la vérité.
Qui fait un peu froid dans le dos.
L'intérêt, c'est ça. L'intérêt, c'est ça. C'est de faire rentrer dans la tête des Français qu'attention, on va être en guerre pendant 10 ans. Et d'ailleurs, comme par hasard, on a le CEMA, le chef d'état-major des armées, qui vous fait une déclaration totalement lunaire au Congrès des maires de France, en disant qu'attention, il faut se préparer à ce que nos enfants meurent. Mais mourir pourquoi? Il est complètement... Enfin, c'est des fous complets. La seule chose à faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'obtenir un accord qui soit à peu près respectable pour les deux parties. Qu'est-ce qu'il demande Poutine? Il ne demande pas d'envahir l'Europe. Il demande qu'on lui donne des territoires qu'il considère russes. Je vous rappelle que l'Ukraine, c'est une invention récente. Et la Russie, elle est... par contre très ancienne. Et tous les territoires qu'on appelle l'Ukraine actuellement étaient des territoires russes il y a 200 ans. Kiev, c'était une ville russe, etc., etc.
Donc, c'est même le centre.
Laissons-les débrouiller leurs affaires.
Je dirais,
c'est carrément une guerre civile. Ils parlent presque la même langue. Ils ont la même histoire, etc. Donc, on a fabriqué un conflit. C'est les Américains avec la CIA, Biden, etc. Tout le monde le sait.
C'est pourtant une évidence.
Depuis qu'il y a Trump, d'ailleurs, vous voyez bien que l'aide américaine s'est stoppée. Donc,
c'est faux.
Non. la seule chose à faire, c'est d'essayer d'obtenir un accord de paix. Et il y aura forcément des concessions territoriales à faire de la part de l'Ukraine. Et ça s'arrêtera là. Tout le monde le sait, ça. Il a juste envie d'avoir un certain nombre de territoires qui lui appartenaient, Poutine. C'est tout. Point barre. Il n'a pas du tout envie d'aller envahir Paris. On ne va pas avoir les soldats russes sur les Champs-Élysées. Il faut arrêter les folies.
Pour revenir à ce qu'a dit le général Mandon, parce que la phrase a été un petit peu sortie de son contexte, tout de même, il n'a pas annoncé que les Russes allaient attaquer la France, mais que si la Russie prolongeait son effort de guerre après l'Ukraine vers d'autres pays membres de l'OTAN, par le jeu évidemment des alliances au sein de l'OTAN, la France serait obligée de participer à un conflit potentiel. Pierre Fournier, vous vouliez répondre.
Oui, je peux pas laisser raconter ça, en fait. En fait, on n'a pas le secrétaire général de Debout la France, on a le secrétaire général de Radio Moscou, ici. C'est absolument scandaleux ce que j'ai pu entendre.
J'avais pas entendu depuis longtemps l'expression.
D'habitude,
je suis traité de fasciste, et là,
les années 80,
je suis traité de russe. C'est rigolo.
Non, oui, mais en fait, vous pouvez pas dire que c'est une guerre civile, qu'on doit céder des territoires, en fait. L'Ukraine et la Russie ont une histoire commune. C'est vrai, comme la France et l'Allemagne, comme la France et l'Espagne, comme...
On n'a pas la même langue avec les Allemands.
Oui, mais c'est pas grave, on parle latin, on a une langue latine comme l'Italie avec l'Espagne. Pourtant, on est des pays bien différents avec notre nationalité et notre état de droit. Et l'Ukraine a droit à ça également. L'Ukraine a été agressée par la Russie. C'est Vladimir Poutine qui a attaqué l'Ukraine, qui est sur leur territoire, qui a attaqué la Crimée, qui a essayé d'annexer la Crimée, qui a essayé d'annexer des territoires russes, territoires ukrainiens, pardon. Ce que vous dites là est absolument scandaleux. En fait, on a l'impression d'entendre un porte-parole du Kremlin, tout simplement. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Sur l'Ukraine, en fait, il ne s'agit pas d'avoir une guerre sur 10 ans. De ne pas faire perdurer la guerre. On souhaite tous un accord de paix et on souhaite tous que la Russie arrête son attaque et laisse les Ukrainiens tranquilles. C'est ce qu'on souhaite. Si, en fait, on n'arme pas l'Ukraine, si on ne passe pas en économie de guerre, comme on dit, les Russes, ils ne vont pas s'arrêter à l'Ukraine. Hein. Enfin, il y a un moment, il faut un peu se réveiller. Ils ont menacé la Finlande.
Vous êtes dans la tête de Poutine, vous savez ce qu'il pense?
Mais monsieur,
parce que vous me dites que je suis Radio Moscou, moi je peux vous dire, il pense pas ça.
Ah bon? Vous avez son numéro de téléphone peut-être? Je sais pas, on découvre sur Radio Présence, mais excusez-moi.
Chacun ses informations manifestement.
Excusez-moi, mais il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Pourquoi il a attaqué l'Ukraine? Enfin, c'est un impérialiste. Il rêve de ressortir.
Il a attaqué l'Ukraine en réponse à l'agression du Donbass pendant 8 ans par les forces ukrainiennes.
Mais arrêtez de dire des bêtises pendant 10 ans. Arrêtez de dire des bêtises, monsieur. Mais ce sont des milices russes qui ont mis ce bazar dans le Donbass.
Ils ont voté à 80% ou 90% pour la Russie.
Arrêtez un peu.
Ils sont des russophiles.
Ils sont peut-être russophones.
Vous ne pouvez pas envisager la solution d'un conflit si vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de faits évidents.
Non, c'est
au
pas
Donbass,
un fait évident,
ils n'ont pas envie d'être ukrainiens. C'est ça la vérité.
Non, c'est pas vrai. Ce sont des territoires qui ont été annexés par la Russie. Ce sont des territoires qui ont été colonisés par des Russes pendant l'époque soviétique. Je rappelle que l'Ukraine a souffert de ce qu'on a appelé une sorte. C'est pas un pogrom, on appelait ça. La mort par la faim, la Shoah par famine.
Il y avait la Shoah par balle, mais ça c'est autre chose.
Oui, non, je parlais de la. Staline et les Russes ont provoqué une énorme famine.
Mais
ça n'a rien à voir, monsieur. C'est pas du communisme, du capitalisme ou quoi que ce soit. Ça s'appelle de l'impérialisme. C'est ce qui s'est passé en Ukraine et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Que Poutine soit communiste, capitaliste ou ce que vous voulez. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est si on veut avoir une Europe de défense, si on veut avoir une Europe sécurisée, et si on veut en fait protéger les Français, mais également l'Europe entière, en fait, il nous faut armer l'Ukraine, les aider et armer tous les pays aux abords de la Russie, parce que ces pays-là, les pays baltes, la Finlande, mais également on peut parler de la Pologne qui est également menacée par les Russes. on a besoin de les armer, on a besoin de s'armer et on a besoin d'avoir une économie de guerre. Si on veut avoir la paix et éviter que les Russes n'aillent plus loin, on a besoin de ça.
Patrick Coste, une minute.
Mais moi, je prends la balle au bon. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aucun de nos deux invités ne savent ce que Poutine a dans la tête. Hein. Donc, il y a eu de toute façon très clairement une agression d'un territoire qui était constitué. Alors, bien sûr, il y a une histoire qui est une histoire hybride hein, entre la Russie et l'Ukraine. Mais ceci dit, il y a un territoire qui était constitué et il y a eu une atteinte à une souveraineté. Il me semble que par rapport aux propos de Poutine, si on essaye un petit peu de se référer à ce qu'il dit, il a effectivement prononcé qu'il n'attaquerait pas les pays européens hors l'Ukraine. Et en général, il fait ce qu'il dit. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on peut, on peut lui reconnaître. Au demeurant, il est quand même agresseur. Et on a quand même l'impression, ça reste une interprétation, hein, qu'il est dans une dimension de la reconquête de la Grande Russie. Hein, et que là, il y a une sorte d'intention qui peut effectivement déborder et qui est susceptible de nous menacer. Et que donc, ne serait-ce que par prudence de principe par rapport à cette éventualité, il convient effectivement d'investir dans nos armées. Ça me paraît...
De toute façon, je pense que notre armée a besoin effectivement de retrouver le potentiel qu'elle a perdu depuis pas mal d'années maintenant. C'est la fin de cette 209e Mêlée de l'Info. Merci à vous trois d'y avoir participé. Merci également à Yannick Galupini qui a assuré la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à tous nos fidèles auditeurs, ainsi qu'à ceux qui découvraient la mêlée ce soir. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.